Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
On va évoquer la dette des États et notamment la dette de la France, une dette qui est la conséquence de la crise économique que traverse une grande partie du monde et notamment notre pays. Bonjour Laurence Boone.
Bonjour Guillaume Erner.
Vous êtes chef économiste de l'Organisation de coopération et du développement économique, l'OCDE. J'ai sous les yeux la une du Figaro, crise économique, la France est plus touchée que les autres. Sous l'effet du coronavirus, notre économie s'est contractée de 5,8% au premier trimestre, qui est plus que les autres pays, 5,2% en Espagne, 4,7% en Italie et 2% en Allemagne. Comment expliquer ce résultat singulier, ce mauvais résultat pour l'économie française, Laurence Boone?
Alors, la première chose, c'est que je pense qu'il faut prendre ces chiffres avec énormément de pincettes. Comme vous savez, pendant le confinement, on a un gel des activités avec des secteurs qui sont très touchés, comme le voyage, le tourisme, tous les secteurs qui demandent un contact direct, en fait, entre un consommateur et un producteur. Et bien sûr, la part de ces secteurs va varier d'un pays à l'autre, mais en gros, ils représentent à peu près 30 à 40% des économies. Et pourquoi est-ce qu'il faut prendre ces chiffres avec beaucoup de pincettes, même si le choc, c'est indéniable, est très fort, et je pense que les chiffres du deuxième trimestre seront bien plus importants, puisque là, au premier trimestre, on n'a eu que 15 jours, en fait, de confinement réel. Mais pourquoi est-ce qu'il faut les prendre avec beaucoup de pincettes? D'abord, ils sont en général révisés, parce qu'ils sont basés sur des estimations. Et que ces estimations, elles reposent en général sur des enquêtes qui demandent du face-à-face ou qui demandent une présentation à une personne, une présence dans les entreprises. Et on a en fait très peu d'indicateurs de très haute fréquence, comme ceux que l'INSEE utilise, qui est les cartes bancaires ou la consommation d'électricité. Donc la mesure de la contraction du PIB peut en fait légèrement varier d'un pays à l'autre. C'est pourquoi je pense qu'il ne faut pas retenir ce chiffre ou cette phrase « la France fait pire qu'ailleurs ». Je pense qu'il faut être très prudent et retenir qu'on a eu un premier trimestre qui a été marqué par le choc de l'entrée en confinement, que le deuxième trimestre va être marqué par le choc du confinement sur plus d'un mois, un mois et demi, et que maintenant, ce sur quoi il faut se concentrer, c'est bien sûr comment on va sortir de cette situation.
Alors, c'est une crise qui est singulière parce qu'on a à la fois un problème d'offre et de demande, et compliqué pour beaucoup de gens d'aller travailler, impossible pour beaucoup de gens de consommer la totalité de ce qu'ils ont à faire. Est-ce que c'est une situation qui peut être ramenée à des choses connues, Laurence Boone?
Vous avez raison de poser cette question parce que je pense que la réponse est largement non. Cette crise est totalement unique. D'habitude, on a une crise qui touche un groupe de pays, par exemple les marchés émergents, ou qui part d'un secteur de l'activité, par exemple une bulle immobilière. Là, on a une crise qui touche l'ensemble du monde, et par ailleurs, on a énormément d'incertitudes. Comme vous savez, on ne connaît pas grand-chose sur ce virus. On ne connaît même pas son taux de fatalité puisqu'on ne mesure pas les choses d'une façon équivalente d'un pays à l'autre. Tout ce qu'on sait, c'est que il se répand assez rapidement. Donc, en fait, la chose la plus difficile, je pense, qu'il faut intégrer, c'est qu'on est en train de quitter cette phase 1 de confinement et de gel de l'économie pour une phase 2 qui, en réalité, est une phase de transition, puisque tous les secteurs ne peuvent pas se remettre en marche. Hein. Le tourisme va rester un peu en berne. Le commerce de gros, on l'a vu avec l'interdiction, par exemple, d'ouverture des très grands magasins ou des centres commerciaux peut rester aussi en berne. Et puis, ça, c'est le côté offre. Hein. Donc, certains secteurs ne vont pas marcher. Et le côté demande dont vous parliez, qui est aussi que nous, consommateurs, personnes, forcément, on a une certaine inquiétude par rapport à la reprise potentielle de ce virus. Donc, nos comportements changent aussi. Et là, bien sûr, l'action du gouvernement va être essentielle pour essayer de fournir un maximum de cadres, de lignes directrices. Pas de certitude, malheureusement, on ne peut pas en avoir. Mais en tous les cas, un chemin, parce qu'on est probablement dans cette situation transitionnelle vers une situation plus normale, pour des mois, le temps que l'on trouve soit un traitement, soit un vaccin qui risque de se faire peut-être à la deuxième moitié 2021.
Mais alors ça doit être très compliqué. Je vais faire preuve de compassion vis-à-vis des économistes parce que vous devez modéliser ça, Laurence Boone, et l'augmentation de l'activité qui va être très progressive. On s'en rend compte maintenant, il y a énormément de goulots d'étranglement. Comment allez-vous la prévoir sur les prévisions de croissance, sur la manière dont vous allez imaginer l'économie demain, je veux dire à court et moyen terme?
D'abord, je vous remercie parce que nous, les économistes, on est assez peu habitués à la compassion. Mais vous avez raison, c'est une période extrêmement difficile, d'autant plus qu'on ne peut pas établir un scénario économique sans avoir un scénario sur l'évolution, un ou des d'ailleurs scénarios sur l'évolution de l'épidémie. Donc à l'OCDE, on a la chance d'avoir un département santé avec qui nous travaillons vraiment en étroite collaboration et avec eux, avec leur modélisation de l'épidémie qui bien sûr s'appuie aussi sur ce que font les épidémiologues à l'extérieur. En fait, on se dit qu'on ne peut pas avoir un seul scénario, qu'il faut regarder, il faut prendre il faut avoir plusieurs scénarios sur l'épidémie et adapter les scénarios économiques qu'on fait à ces scénarios épidémiques. Et pour moi, le message principal quand on fait ça, c'est vraiment que dans cette phase de transition dans laquelle on est, il faut être flexible et agile. Parce qu'on va peut-être devoir réouvrir certains secteurs, on va pouvoir réouvrir certains secteurs, et puis on va devoir les refermer. Et puis certains vont être en pleine croissance, et d'autres vont être en quasi-hibernation pour très longtemps. Donc il va falloir une grande fluidité, et c'est à mon tour d'exprimer de la compassion, parce que c'est vraiment très difficile pour tout gouvernement de s'adapter et d'avoir cette flexibilité et agilité qui va être super utile pendant les mois qui viennent, et comme je vous disais, probablement jusque mi-2021.
Ce qui est regrettable, pour ne pas dire plus, c'est que notre pays, la France, s'est spécialisé dans trois secteurs qui sont particulièrement touchés par la pandémie, le luxe, l'aéronautique, le tourisme. Laurence Boone, est-ce que, par conséquent, on ne peut pas imaginer que l'on doive développer des trésors d'ingéniosité pour contrer le contre-coup de cette période de confinement?
Alors, tous les pays doivent développer des trésors d'ingéniosité pour sortir progressivement de cette période de confinement. Mais le point sur lequel vous insistez est effectivement très bon, parce que quand on est dans la première phase, ce qu'on fait tous les gouvernements de tous les pays de l'OCDE d'ailleurs, et la France l'a très bien fait, c'est effectivement de mettre un énorme frein à cette dégringolade de l'activité en soutenant les entreprises, en les mettant en fait en sommeil, en fournissant les liquidités dont elles ont besoin pendant cette période, et en faisant la même chose avec l'emploi, pour s'assurer qu'on n'allait pas rajouter en fait une crise économique et une perte de revenus pour la plupart des personnes. Et ça, j'allais vous dire, comme vous balayez très large et qu'on a beaucoup appris de la crise de 2008-2009 en matière de ce type de politique économique, ça se fait très bien. Ce qui est plus difficile maintenant, c'est que bien sûr, il faut remettre tout en marche. Il faut surtout assurer une transition des personnes qui sont dans un emploi dont le secteur va rester affecté pendant très longtemps vers un secteur dans lequel on a beaucoup plus besoin de travail. Vous pouvez penser au secteur de la santé, mais évidemment il y a un temps de formation, mais vous pouvez penser à l'hygiène, vous pouvez penser à l'agriculture, vous pouvez penser à la sécurité.
Et quand je dis c'est déplacer, pardonnez-moi, je vous coupe, Laurence Boone, ça veut dire prendre par exemple des salariés qui travaillaient dans l'aéronautique, parce que là on voit bien que les commandes d'avions, elles ne vont pas redémarrer demain matin, et faire en sorte que celles-ci travaillent ailleurs, dans d'autres secteurs, c'est ça que vous indiquez?
Alors, oui et non, c'est-à-dire que je ne serai pas autant planificateur que vous, parce qu'il y a quelque chose qui est difficile.
Non, c'est une question.
C'est la croissance des secteurs, mais c'est-à-dire que quelqu'un qui est en chômage partiel dans un secteur qui est endormi pour des mois, on peut le laisser aller prendre un autre emploi sans pénaliser le revenu qu'il va en tirer dans un secteur qui est probablement en croissance, qui va permettre une transition plus facile entre effectivement un secteur où il pourrait plus travailler et un secteur où à nouveau on va avoir besoin de personnes. C'est ça qu'on va devoir faire. Et ça c'est probablement l'exercice le plus difficile effectivement. Mais cette flexibilité de pas mettre de règles trop strictes justement pour empêcher le cumul d'emplois ou pour empêcher le cumul de revenus, elle va être essentielle pour permettre aux individus, à tout le monde qui ne peut, qui est dans un secteur qui va rester en gel pendant longtemps, de retrouver de l'énergie très rapidement.
Alors justement, il y a un dicton boursier américain qui dit qu'il ne faut jamais laisser se perdre une bonne crise. Quand vous évoquez la diminution des barrières d'un emploi vers un autre, on peut imaginer qu'il y ait toute une série de débats politiques, économiques et sociaux, parce que en France, ces débats sont toujours particulièrement vifs, pour assouplir un certain nombre de règles. Est-ce que vous pensez que ces règles doivent être assouplies au risque d'aboutir à une situation véritablement périlleuse? Est-ce que l'on pourrait continuer comme avant, Laurence Boone, selon vous?
Alors, à nouveau, je pense que, et vous le disiez très bien, la situation est vraiment unique. Et donc, je ne pense pas qu'il faut raisonner comme ça. Je pense qu'il faut raisonner vraiment adaptabilité au niveau le plus proche du terrain. Donc, quelle est la barrière qui fait qu'une personne ne peut pas aller cumuler temporairement deux emplois en ayant sans perte de revenus? Quelle est la barrière qui fait que l'entreprise peut être tentée de rester plus longtemps en période d'inactivité ou freinée dans sa restructuration? Est-ce que ça vient de la façon dont son capital est structuré, les prêts qu'on lui a faits sont structurés? Donc, comment est-ce qu'elle peut travailler avec les banques pour surmonter ce problème? Une entreprise qui se remettrait à travailler très vite, très bien, est-ce qu'il faut vraiment lui faire payer tout le report de charges et d'impôts qu'on lui a accordé pendant 3 mois d'un coup? Est-ce que c'est peut-être pas plus intelligent d'étaler dans le temps pour lui laisser effectivement les moyens d'investir ou d'embaucher? Toutes ces mesures très, très microéconomiques et je pense très, très proches des personnes et des entreprises vont être très importantes dans les mois qui viennent.
On comprend bien que tout ça va être financé par de la dette, Laurence Boone. L'idée, c'est qu'il va falloir combler ce déficit. Alors là aussi, les chiffrages évoluent, mais disons que la dette française pourrait passer d'environ 100% à 115-120% du PIB. Votre estimation à ce sujet du produit intérieur brut?
Alors, nous sommes en pleine période de prévision, donc je ne peux pas vous donner d'estimation. Mais vous avez celle de la Commission et du gouvernement.
Bon, alors, la fourchette qui est souvent donnée, c'est entre 115 et 120% du PIB. Qui va payer à terme, Laurence Boone? Comment ça va se passer concrètement? On expliquait que la France était trop endettée. Elle va être trop endettée. Avec quelles conséquences?
Alors, je pense qu'à nouveau, il faut regarder les choses En se remettant dans la phase de la crise dans laquelle on est. Donc la première phase dont on sort, bien sûr, on a mis tous les moyens en œuvre sans se préoccuper effectivement de ce que ça voulait dire pour la dette, et tous les pays ont fait ça, c'était important. Et là, on sait qu'on va devoir adapter et faire évoluer le soutien, et on en parlait, donc il va être plus ciblé, il va être plus précis. Maintenant, quand on sera dans la phase 3, effectivement, où l'activité sera repartie et sera dynamique, je pense que le souci principal, notre compas, ça doit être de s'assurer que la dette est soutenable. Et là, c'est pas tant l'augmentation du niveau de la dette que vous venez d'écrire qui est importante, parce que ça, c'est un choc à la hausse qu'on espère temporaire, mais ce qui doit nous soucier, c'est de ne pas déclencher une mauvaise dynamique où la dette continuerait d'augmenter et d'augmenter. Par exemple, pour regarder le Japon, ils ont fait un saut assez quantique dans leur dette, mais elle est relativement stable et donc ça se passe relativement bien. Donc, il faut vraiment s'inquiéter de la dynamique. Et pour ça, on a plusieurs outils. Je vais en citer 3. On a évidemment la croissance, on a évidemment les dépenses et les recettes, et puis on a les banques centrales. Le premier, le meilleur outil pour assurer une bonne dynamique de la dette et de sa soutenabilité, c'est la croissance. Et c'est pour ça que cette phase 2, elle est très importante pour repartir le plus vite et le mieux possible. La deuxième chose, qui sont les impôts et les dépenses, je serais très prudente et je dirais que sur les dépenses, on va avoir beaucoup de demandes de dépenses de santé, de sécurité sociale. Vous savez, cette crise va creuser les inégalités, donc il va falloir faire attention aux personnes les moins favorisées. Et donc, pour moi, il vaut mieux repenser l'allocation des dépenses. Est-ce que les dépenses vont bien au bon endroit vers les bonnes personnes? Et comme on en fait beaucoup, on a sûrement matière à regarder ce qui se passe là. De la même façon pour les impôts, je ne suis pas sûre que ce soit la hausse d'impôts qui soit la chose la plus importante, et loin de là, parce que d'abord on a déjà un ratio d'impôts sur PIB qui est élevé, et ensuite ce qui est important à mes yeux, toujours avec cette idée que la justice sociale va vraiment être un élément clé de cette reprise, c'est de s'assurer de la progressivité du système. Et le troisième point, donc après la croissance, c'est ça, et c'est les banques centrales. Je pense qu'il faut être très, il faut qu'on soit très transparent et honnête avec nous-mêmes. Les banques centrales vont devoir garder pendant une période suffisamment longue les dettes sur leur bilan pour maintenir les taux bas et pour s'assurer qu'elles fassent tampon pendant la reprise et pendant la période de stabilisation de retour à la normale.
Alors, c'est ça qui est passionnant, en fait, dans cette période-là. Elle n'est hélas pas que passionnante, Laurence Boone, mais ce que vous venez de décrire, c'est un mécanisme où finalement les banques centrales vont posséder la dette des États avec des taux d'intérêt qui sont aujourd'hui extrêmement faibles. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginez une sorte d'économie diabolique où finalement cette dette, elle perdurerait sur le long terme avec des taux d'intérêt extrêmement bas, c'est-à-dire finalement un service de la dette que vont payer les États assez réduit. Est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour alourdir un peu cette dette et faire par exemple un certain nombre de dépenses dans le domaine par exemple des énergies vertes, de la protection de l'environnement qui sont aujourd'hui indispensables du point de vue de la crise climatique, mais qui était retardée.
Alors, il y a deux questions dans ce que vous venez de dire, et je pense que la première, c'est quel type de reprise économique on veut. Et effectivement, je pense qu'il va y avoir deux ou trois choses très importantes. Le premier, on vient d'évoquer, c'est cette demande de justice sociale. La deuxième chose, c'est évidemment maintenant, on devrait réaliser qu'il faut prendre en compte les risques qui ont peut-être une faible probabilité de se matérialiser, mais qui ont des effets dévastateurs. Et ça, typiquement, le climat ou la cybersécurité fait partie de ces risques. Et donc, il va falloir construire une résilience à ces risques. La troisième chose, elle a à voir avec la sécurité de nos approvisionnements. Ça, je pense que ces trois, et des chaînes de production, c'est trois choses importantes. Est-ce que la Banque centrale peut tout financer? La réponse est non. Pour garder des taux d'intérêt aussi bas, bien sûr, la Banque centrale peut agir, mais elle a aussi besoin d'être crédible, de savoir, et c'est important pour les gens qui nous prêtent de l'argent, pour les investisseurs, que si jamais l'inflation devait repartir très fort, la Banque centrale est aussi prête à agir, et pour agir, à ce moment-là, elle aura besoin de réduire le montant de dette qu'elle détient sur son bilan. Donc, il faut que l'on fasse ces dépenses que vous citez, une reprise qui soit soucieuse de l'environnement, qui soit soucieuse de la santé, de la résilience de notre système, mais qui ait un compas très clair, qui soit transparent sur le chemin qu'on fait pour asseoir à la fois notre crédibilité et pour que la Banque centrale, elle aussi, conserve sa crédibilité.
Mais oui, mais alors c'est cela qui est, je me répète, véritablement passionnant dans cette période, parce que non seulement il n'y a pas de tendance inflationniste, mais il y a même des tendances déflationnistes. Et ce que l'on redoute le plus, Laurence Boone, aujourd'hui, c'est la déflation, parce que la déflation, ça veut dire la contraction de l'économie. Et dans ces conditions, est-ce qu'on n'est pas passé, vous parliez de saut quantique tout à l'heure, en tout cas, à une économie quantique en ceci, que les règles habituelles ne s'appliqueraient pas sur la période actuelle?
Il faut se méfier des phrases un peu définitives. Je suis pas sûre que toutes les règles ne s'appliquent pas, mais vous avez raison que nous sommes dans une période exceptionnelle, extraordinaire et unique, et que les politiques sont non conventionnelles. Effectivement, sur la déflation, je pense qu'une des grandes leçons de la crise financière, c'est que si on resserre la vis budgétaire trop vite, la politique monétaire n'est pas en soutien, donc les banques centrales et leur bilan, on risque de ne pas avoir assez de croissance. Ça, c'est vraiment l'erreur qu'on a fait en 2010. Et donc, en n'ayant pas assez de croissance et une compression de la demande, on rentre dans une période où, effectivement, l'inflation baisse, comme vous venez de décrire. Et c'est vraiment ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi cette crise financière. C'est pourquoi il est super important effectivement de penser soutenabilité de la dette et pas forcément réduction rapide de la dette, et qu'il est à la fois essentiel qu'on ait toujours ce soutien budgétaire important, et notamment il faut y penser à l'échelle européenne, et aussi une politique monétaire qui, avec sa crédibilité, continue d'assurer le coussin dont on a besoin en cette période de transition et de reprise par la suite.
Mais est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement, dans ce cas-là, faire fonctionner la planche à billets lorsque Keynes, par exemple, s'interrogeait sur les manières de financer la guerre? On est dans une guerre un peu particulière. On va pas repartir sur le débat sémantique pour savoir si la lutte contre la Covid est ou non une guerre. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a financé une masse énorme de dépenses. Finalement, des dépenses pas plus inutiles que ce que l'on a à faire dans une guerre où il s'agit d'acheter des armes, Laurence Boone. Est-ce qu'on n'est pas finalement dans une situation typiquement keynésienne décrite en 1940?
Alors, on est un peu dans ce type de choses, mais on est dans cette phase 2 de la transition, donc on commence à repartir. Donc oui, on a besoin du soutien budgétaire, oui, on a besoin du soutien monétaire, c'est ce que j'essayais effectivement de dire, et ça, on va en avoir besoin jusqu'à ce qu'on ait bien plus ancré la croissance, bien plus ancré la reprise de l'emploi que ce qu'on a aujourd'hui, que ce qu'on aura même dans 2, 3 ou 6 mois. C'est une période, c'est un marathon, c'est pas un sprint, et ça va être la même chose effectivement pour la soutenabilité budgétaire. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est du déficit, et effectivement le bilan des banques centrales absorbe une partie de cette dette. La question qui est importante, c'est que elle l'absorbe, mais en regardant le compas à elle d'un certain niveau d'inflation, de la même façon que nous, il faut qu'on ait une direction sur le type de reprise et de chemin de croissance soutenable que l'on veut. Et c'est ça, je pense, il n'y a pas de chiffre magique, mais en revanche, il faut avoir des lignes directrices, une vision claire de là où on veut aller et comment on va y aller.
Il n'y a pas de chiffre magique, mais il peut y avoir de l'argent magique dans la mesure où, par exemple, là aussi, ce qui est très étonnant dans cette période, on voit par exemple la bourse de New York qui a considérablement remonté après s'être effondrée. Et là aussi, même The Economist, le magazine anglais plutôt libéral, ne comprend pas et souligne qu'il y a un hiatus. Les perspectives économiques sont sombres. Comment la bourse américaine peut être haute?
Alors, je pense que on peut avoir deux explications. La première, c'est que la bourse américaine n'intègre pas le fait, vous parliez des expériences précédentes, qu'on puisse avoir un retour du virus, que le déconfinement se passe pas si bien que ça, ou bien que le virus soit saisonnier et qu'on ait à nouveau une vague à l'automne, hein, c'est ce qui s'est passé parfois avec des virus précédents. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que à la fois la Banque centrale américaine et le Trésor américain sont intervenus massivement pour soutenir l'économie et massivement pour la Banque centrale pour s'assurer que les marchés financiers allaient rester stables. Donc, elle achète à peu près tout, pas tout, mais elle achète à peu près tous les actifs qu'on trouve sur le marché. Du coup, il y a plein de liquidités sur ces marchés et le mécanisme de formation des prix, qui est en fait comment un investisseur voit le risque d'un actif, ne marche plus puisqu'il n'y a plus de risque, la Banque centrale l'achète. Alors on peut se dire c'est formidable, c'est peut-être à quoi vous faisiez allusion, parce que finalement, plus rien ne perd de la valeur. Le problème, c'est que quand vous faites ça, vous pouvez faire n'importe quel type de crédit ou garder n'importe quel type d'actif sur le bilan des banques, et ensuite ça encombre le bilan des banques, et quand on est dans une phase de reprise qui s'accélère, en fait ces mêmes banques ou ces mêmes marchés n'ont plus la capacité, les épaules pour faire de nouveaux crédits, de nouveaux prêts, un nouveau soutien financier à des entreprises qui seraient très, très en croissance. Et alors là, on commence à s'enliser dans quelque chose qui ressemble à ce dont on parlait avant cette crise épidémique, qui est une espèce de stagnation, vous vous rappelez ces mots de stagnation circulaire. Donc c'est pour ça que c'est important à un moment d'aider à la restructuration, à la dynamique de l'économie et de ne pas trop encombrer justement ou trop tuer les prix et la perception du risque pour que l'argent ne soit pas gâché, mais aille là où il y a des vraies perspectives d'emploi et de reprise d'investissement.
Une dernière chose, Laurence Boone, en conclusion, donc on a compris que selon vous, il fallait être souple et adaptable. Un conseil à donner dans cette conjoncture particulière aux gouvernants, quelle politique devrait être suivie selon vous qui êtes chef économiste de l'OCDE?
Alors, c'est toujours difficile de donner des conseils à des gens qui sont aux manettes, ils ont généralement plus d'informations que vous. Mais je, je, ce que je crois que la discussion qu'on a eue sur cette nécessité, comme vous disiez, d'être flexible, agile, d'être prêt à élargir un soutien, à en recibler un autre, et surtout de ne pas considérer qu'on est dans une période de reprise, mais vraiment dans une période de transition vers une croissance qui sera plus solide quand on aura trouvé un traitement ou un vaccin et qu'on aura tout réouvert est important. Donc cette période est longue, il faut être transparent, avec des lignes directrices claires et une grande souplesse dans la façon dont on va faire les choses.
Merci beaucoup, Laurence Boone, d'avoir été avec nous ce matin. Dans quelques instants, la séquence TTC 8h46 sur France Culture.